Bonjour Luc.
Bonjour Martin.
Luc, on s'attarde beaucoup dans les grandes manchettes nationales aujourd'hui, bon, sur la métropole qui perd beaucoup de population aux dépens des banlieues, mais il faut regarder aussi dans notre cours parce que, on va dire, de l'immigration entre régions. Dans notre petite région à nous, il y en a pas mal et certaines données viennent aussi expliquer certains événements de l'actualité.
Tout à fait. Écoute, c'est sûr que si j'étais le maire de Gaspé aujourd'hui, je serais bien heureux des résultats qui viennent d'être publiés par l'Institut de la statistique du Québec parce que le mot « exode » était devenu, on parlait quasiment d'une exode permanente.
Oui.
Et ces gens-là se débattent comme le diable dans l'eau bénite pour essayer de mettre fin à ça. Et en 2016-17, il y a une croissance positive au lieu d'une décroissance au niveau du mouvement migratoire entre les régions. Parce que fondamentalement, c'est ce que l'Institut de la statistique du Québec a fait, de dire qui perd et qui gagne au niveau régional. L'Estrie est à mi-chemin dans le peloton, au 9e rang, et avec une augmentation de 489 citoyens au cours entre 2016 et 2017. Et ça, c'est à peu près, je te dirais, le phénomène, parce que j'ai comparé les statistiques sur 8 ans, donc ça nous donnait à peu près 500 personnes de plus.
Oui.
Donc, on est dans la moyenne. Là où c'est intéressant, c'est que c'est pas une répartition uniforme sur le territoire de l'Estrie, ces gains-là. Et essentiellement, d'ailleurs, ils sont attribuables à la MRC Memphrémagog, qui a augmenté en population de 577 personnes. Ça veut dire que c'est plus que régional, ça veut dire qu'il y en a qui perdent. Mais la particularité, oui, on parle souvent des technologies de l'information qui offrent des nouveaux débouchés pour l'emploi, mais les gains de la population dans la MRC Memphrémagog continuent à se faire surtout chez les 45-64 ans. Parce qu'on s'entend que c'est pas la tranche de population où on est le plus entrepreneur et entreprenant.
Et surtout,
avec Steve, la mairesse Vicky Méham, hier, par rapport à la réceptivité au projet touristique, puis elle disait, Madame Méham, écoutez, je ne sais plus quoi faire pour convaincre mon monde. Ben, quand tu regardes la courbe démographique, ça te suggère quelque chose.
Oui.
Et quand tu regardes aussi le souci du comité de vigie qui a été mis sur pied dans la MRC Memphrémagog au niveau des soins de santé, ça t'explique aussi que la pression vient de cette couche de population.
Oui.
L'élément positif 2016-2017, tu as la MRC du Val-Saint-François avec un gain de 51 personnes, mais aussi le Haut-Saint-François, un petit gain, 18 personnes, mais eux aussi, si tu te souviens, Chartierville, Notre-Dame-des-Bois et tout ça, c'était dans les secteurs les plus dévitalisés du Québec.
Tout à fait.
Alors que Sherbrooke, écoute, c'est sur une année seulement, mais on a perdu du terrain au cours de la dernière année. Moins 24 personnes.
Ouais.
Et ça, c'était pas dans la tendance parce qu'on était une des villes métropolitaines là, qui avait la plus forte croissance. On verra sur plusieurs années. J'attire ton attention sur une perte qui paraît assez significative. Coaticook, moins 100 personnes sur une population de 19 000 habitants. Point d'interrogation.
Oui.
Et sur la dynamique plus à long terme, Martin, parce que j'ai essayé de voir, parce qu'une année, là, ça peut créer un effet de distorsion. Mais dans les prévisions de croissance démographique, je te rappellerai que pour les prévisions 2011-2036, ça nous annonçait un gain d'à peu près 16 % Sherbrooke, mais de 20 % dans la MRC Memphrémagog. À long terme, c'est appréciable, parce que si ta population augmente beaucoup plus vite à Magog qu'elle augmente à Sherbrooke, le poids relatif de la MRC Memphrémagog versus la capitale va toujours aller en augmentant.
Oui.
Pense à notre aéroport. Est-ce que dans le corridor, si le corridor Sherbrooke-Magog, parce qu'encore aujourd'hui, j'entends constamment parler de ça en disant, voyons donc, ça n'a pas de bon sens d'essayer de développer l'aéroport à l'est, alors que le gros du développement
est à l'ouest.
En se fait dans le corridor Sherbrooke-Magog. Et l'autre élément, c'est de dire, écoute, avec ce noyau urbain-là de plus en plus fort, Sherbrooke-Magog, évidemment, pour les rapports entre les MRC urbaines et périphériques, ça va poser des défis parce que la ruralité peut devenir plus fragile.
Absolument.
Mais c'était avant deux éléments, nos serres de potes de 200 millions,
Oui, monsieur.
Est-ce qu'on aura la révolution là-dedans? Et dernier élément, Martin, qui n'est pas mineur non plus,
ouais.
Quel sera l'effet dans 10 ou 15 ans de la voie de contournement de la 410 voilà. qu'on va compléter?
Oui, absolument.
Du côté de Lenoxville.
Et c'est là que je voulais t'amener, entre autres, quand tu m'amenais les données pour la MRC de Coaticook, entre autres. Moi, je vois là quand même un parallèle drôlement intéressant avec tout le développement, justement, là, du circuit autoroutier où on dit que ce sera beaucoup plus facile, donc, pour les gens aussi de regarder à l'extérieur de Sherbrooke pour s'installer, mais de travailler, entre autres, à Sherbrooke. Parce qu'on l'a vu, ça, lorsqu'on facilite les déplacements urbains versus le rural, il y a eu un accroissement de l'intérêt pour aller s'installer en banlieue, là.
Il y a quelques années, le gars de Coaticook que je suis est allé blasphémer devant sa population parce qu'on m'avait invité justement à réfléchir et à prononcer une conférence en essayant d'anticiper les résultats du prolongement de la 410.
Mm-hmm.
Moi, j'avais dit aux gens de ma communauté, devenez une banlieue de Sherbrooke. Et là, ils ont comme sursauté parce que c'était comme si on remettait en question l'aspect existentiel.
Ouais.
De ce qu'a toujours été Coaticook dans l'âme et dans ses valeurs.
Oui.
Et ça ne veut pas dire sacrifier son âme.
Ben non.
Mais ça veut
ben
dire
non.
regarder l'accès soudain
oui.
aux grands employeurs de l'Estrie.
Oui.
Est-ce qu'on s'entend qu'actuellement, là, et c'est moins pire depuis que le rond-point est complété au niveau de Lenoxville, parce que le gros du lien autoroutier entre Coaticook et Sherbrooke est pas mal avancé.
Oui.
Mais avant ça, là, pour quelqu'un de Coaticook, là, si tu te souviens, dans le temps que tu amenais tes mouches jouer au hockey à Coaticook, tu partais de Rock Forest, là,
ouais.
la rue Montante, puis le verger Gosselin, puis la rue Belvédère.
Oui, monsieur.
C'était pas évident.
Non, c'était
là,
pas évident.
Là, c'est en lien direct.
Oui.
C'est en lien direct avec des grands employeurs,
oui.
avec le CHU, l'université, les plus gros employeurs de l'Estrie. T'es à peu près une trentaine de minutes.
Mm.
Et moi, je te prédis aussi, regarde du côté de Fouché-Raton,
oui.
comment on se prépare à ça.
Ouais.
À l'effet de la 410,
ouais.
parce que déjà, on aura un petit noyau urbain qui va prendre forme
mm.
à côté de l'école Alexandre de Galt,
mm.
où était l'ancienne Shermag. Là, si tu regardes la
ouais.
planification,
ouais.
tu as déjà des aires commerciales et de services là
ouais.
qui vont marquer le positionnement de la MRC de Cook-Sheraton,
mm.
De la municipalité, pardon, non pas de la MRC,
ouais.
mais du Haut-Saint-François versus la 410.
Ah, tout à fait. Hey, Luc, un mot, parce qu'on en discutait hier avec les gens de l'agence Chasse et Pêche du fameux registre québécois des armes à feu. Toi, je sais que c'est ton dada et que probablement que... En passant, as-tu réussi à enregistrer tes armes?
J'ai même pas essayé encore, jusqu'en 2019. Là.
Ouais.
Je vais laisser régler les fouillis informatiques,
ouais.
puis après ça, je procéderai à ça.
Okay.
Mais j'aurai, comme tout le monde,
ouais.
l'obligation de l'adoption du projet de loi fédéral
ouais.
de passer à travers les systèmes de vérification qui vont reculer plus loin dans le temps. Et moi, là, j'en ai pas du tout contre ce souci-là de dire si tu as des antécédents criminels et tout ça, si tu as eu un contrôle des signes d'impulsivité, t'as proféré des menaces déjà envers ton ex-conjointe et tout ça. Tout à fait d'accord avec ça. Là, il y a des éléments tordus dans le projet de loi du ministre Trudeau, du premier ministre Trudeau. C'est
ouais.
l'élément suivant.
Ouais.
Je te vends mon auto, Martin. On s'en va, toi et moi,
mmh.
dans un guichet de la Société de l'assurance automobile.
Ouais.
On procède à la transaction.
Oui.
Et c'est le responsable, le commissionnaire ou le mandataire de l'État qui vérifie si tu es apte ou non à acheter mon auto, puis mmh. on règle ça.
Mmh.
Savais-tu que si La Rochelle vend une arme à Pelletier dorénavant,
ouais.
non seulement il va demander à Pelletier, Martin, est-ce que tu peux me montrer ton permis de possession et d'acquisition d'armes à feu? Tu vas dire bien sûr. Et c'est moi qui aurai l'obligation comme vendeur d'aller vérifier dans le registre national si oui ou non ton permis est valide.
Ah! Hein?
Ben oui.
Est-ce qu'il va falloir aussi que j'appelle le Doc Mayou pour avoir une psychanalyse pour savoir si je suis apte à posséder une arme à feu?
Et que j'aime là où tu m'amènes parce que la loi Anastasia, tu te souviens, 2007,
ouais.
ça fait 10 ans.
Oui.
C'est la loi qui a été votée après la tuerie au collège de Dawson
oui.
et qui interdisait les armes à feu à l'école et dans les lieux publics. Ce qu'il y a de plus légitime et plus normal, tu sais, mmh. que j'aille à la chasse en camouflage dans un autobus de la STS, c'était pas une très bonne idée. C'est maintenant interdit.
Ouais.
Mais si tu te rappelles bien, et je te lis les articles notamment, ouais, un enseignant, un professionnel ou toute autre personne œuvrant dans une institution scolaire désignée qui a un motif raisonnable de croire qu'une personne a sur les lieux de cette institution un comportement susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d'autrui avec une arme à feu, doit signaler ce cas-là. Comment ça se fait que les projets de loi n'arrivent pas avec l'obligation de faire rapport de l'efficacité de ces signalements-là?
Ouf! Hey, mais ça devient...
Non, mais c'est normal, non?
Oui, c'est normal, mais c'est drôle.
Que chaque année, le ministère de la Sécurité publique nous dévoile les statistiques du nombre de cas où, de façon préventive, on est intervenu. Parce que c'est beau, là, le pouvoir délégué, de dire que La Rochelle va contrôler le permis de possession d'acquisition d'armes à feu de Pelletier.
Ouais.
Mais est-ce qu'on s'entend que ça fait pas très, très sérieux?
Mais non, pas du tout. Et que ça met aussi une pression sur le vendeur. Puis il y a bien des gens qui vont arrêter là parce qu'ils se disent « Je veux pas être responsable de ce que l'autre était, est et sera. »
Parce que ce serait simple, si je veux te vendre mon arme, on s'en va de n'importe quel poste de la SQ, eux vérifient ton permis, réglé, on part, c'est contrôlé.
Ben oui.
Pourquoi on n'agit pas de cette manière-là si on veut être sérieux, tant à Québec qu'à Ottawa? C'est parce qu'on ne veut pas s'empêtrer de la réalité du contrôle des armes à feu.
Oui. On fait semblant, finalement, tu sais, on se donne bonne conscience.
Et c'est ça qui m'agace.
Ouais.
On va faire semblant de se voter des lois qui vont améliorer les choses.
Luc La Rochelle, merci. Bonne semaine.
Bye bye, au plaisir, Martin.